Deuxième partie. Quelques années s'écoulèrent. Siméon fut nommé commis principal. Monsieur Fauvel mourut tout à coup d'une fluxion de poitrine. Sa veuve n'avait pas plus de 25 ans. Un jour, elle pria Siméon de lui offrir le bras pour aller à l'église. Elle était très jolie. Elle avait une petite figure blanche et rose qui avait l'air d'une pomme. Siméon endossa le frac précieusement conservé de son père et osa demander à Madame Fauvel si elle ne se remarierait pas un jour. « Le défunt était sous-chef, » dit-elle. Siméon, dès lors, fut ambitieux. Il entrevoyait vaguement dans l'avenir un inappréciable bonheur. Être sous-chef, être le mari de la jolie veuve, ces deux rêves le hantèrent. Après plusieurs années d'attente, le premier se réalisa. Quant au second, Siméon tremblait. Les yeux de Madame Fauvel semblaient quelquefois lui demander « Eh bien !» Mais il n'avait garde de leur répondre. « Allons, » lui dit-elle un jour, « je crois que vous me rendrez heureuse. » Le jour du mariage, à l'église, le trouble de Siméon fut tel qu'au moment où la femme prononçait « oui », il s'évanouit parce qu'il avait entendu « non ». Le bonheur, ce royaume divin, est aux pauvres d'esprit. Siméon vécut à genoux dans l'extase. Il regardait sa femme et riait. Il lui prenait la tête et disait « c'est à moi ». Il ne comprenait pas comment il pouvait se faire qu'il fût le mari de cette grâce et de cette beauté. Quand il sortait, il lui volait des gants ou un mouchoir pour les respirer en chemin. Il était devenu si bon que Madame Charlerie était obligée de s'opposer à ce qu'il emportât de l'argent. Il donnait tout aux mendiants des rues. Il ne savait qu'imaginer pour la divertir. Il pensait qu'il n'était pas beau et qu'il fallait la rendre très heureuse pour qu'elle ne s'ennuyât pas de vivre. Elle, si charmante, avec lui si vilain. Il devenait ingénieux. Il apprit le langage des fleurs afin de lui apporter chaque jour un bouquet symbolique. Madame Charlerie le regardait faire avec douceur. Elle l'embrassait chaque fois qu'il revenait du bureau et l'appelait « mon bon Siméon ». Et Siméon lui disait « que veux-tu? Je suis plus heureux que les saints du paradis. Si tu as envie de quelque chose, il faut me le dire. » « Tu ne me trouves pas trop laid ni trop bête. » Il ajoutait, « Tiens, je t'ai apporté des boucles d'oreilles en corail. » Et pendant qu'elle les admirait, lui, à genoux, la tête renversée comme un ours câlin, il baisait le dedans d'une jolie main potelée. Leur appartement était petit et bien clos. On voyait luire l'acajou frotter des meubles, et tout était neuf et gai. Sur une pendule de bronze doré, deux pigeons se becquetaient, les ailes entr'ouvertes. En les regardant, Siméon se frottait les mains. Les fenêtres, aux vitres claires, aimaient le soleil et laissaient par instants courir sur le parquet l'ombre de quelques branchages, car non loin d'elles se balançaient les arbres d'un grand jardin. Des oiseaux, quelquefois, pépillaient sur le rebord d'une croisée. Paris, dans ses vieilles rues, a de ses côtés rieurs où le printemps séjourne. Madame Charlerie aimait beaucoup la maison où il logeait parce que les escaliers avaient les murailles lisses et qu'ils étaient toujours bien cirés. Quant à Siméon, il était ravi des nombreuses glaces qui décoraient les chambres. Il pouvait voir sa femme de plusieurs côtés à la fois. Peu à peu, pour qu'elle s'y plût, il avait orné l'appartement de 1000 babioles. On voyait sur les cheminées de petits paniers en coquillages, des pots en porcelaine blanche, peints de papillons, et des coupes d'onyx où il planta des oignons de tulipes. Enfin, tout souriait. Il y avait de la bonne humeur dans les tentures de perse fleurie, du bien-être dans les canapés bien rembourrés, de l'appétit dans les plats de Rolls qui sortillaient sur le dressant de la salle à manger. Et Cimeron disait en prenant sa femme par la taille, « C'est un nid !» Le dimanche, quand il y avait du soleil, ils allaient à la campagne. Elle avait une robe de mousseline comme une jeune fille et un chapeau rose sur des bandeaux plats, et il lui demandait « M'aimes-tu ?» Il prenait le train pour Meudon ou Ville-d'Avray. Et comme elle adorait les lilas, il en cassait des branches qui dépassaient les murs. Il déjeunait sous un arbre, il lui racontait les histoires qu'il avait lues autrefois dans les livres. Il expliquait, afin de paraître très savant, qu'il y a des rivières dans les plus hautes montagnes. Puis quand il ne passait personne, il lui prenait les mains, et en levant les yeux, il s'écriait « Oh, mais tu es belle comme le ciel !» Ensuite, ils allaient dans l'épaisseur plus profonde du bois. Ils partageaient par la moitié les fraises qu'elle trouvait. Ils lui montraient les oiseaux. Ils lui nommaient ceux dont il connaissait l'espèce. Un jour, elle vit une chèvre blanche avec une barbe noire. « Oh, qu'elle est jolie !» dit-elle. Il avisa un homme qui faisait paître la chèvre et la lui acheta. Tout le jour, en tirant la bête par un foulard que Siméon lui avait mis au cou, ils coururent avec elle dans les fougères. Le soir, ils furent bien embarrassés parce qu'ils ne savaient que faire de la jolie bête. Siméon en fit présent une petite fille dans le cabaret et ils dînèrent. C'était ainsi qu'ils étaient fous. Son enfance, sa jeunesse, les jeux, les gaietés qu'il n'avait pas connues, il faisait tenir tout cela dans son amour. Il lui suffisait de voir sa femme incliner la tête vers lui pour éviter un fil d'araignée tendu d'un côté à l'autre d'un petit sentier ou de l'entendre dire « Comme les branches ont bonne odeur !» pour qu'il adorât Dieu d'avoir fait le printemps. Et le soir, revenant de Meudon ou de Ville-d'Avray, il songeait avec délice, en serrant parmi le pli de la jupe la petite main de sa femme, « Oh, nous y retournerons dimanche prochain !» Il leur naquit un fils. Ce fut un ravissement sans pareil. Siméon, pendant 3 jours, répéta « Un garçon, un garçon !» Pour la première fois depuis 15 ans, il demanda un congé parce qu'il ne suffisait pas d'entendre crier l'enfant toute la nuit. Il le regardait, il le berçait, il disait « Clémence, je trouve qu'il te ressemble !» Et quelquefois, il se dressait tout à coup et se regardant dans une glace, il s'écriait « Mais le père, c'est moi !» Ce brave homme était ridicule et exquis. Un matin, son fils entre les bras, il se précipita vers le lit de Madame Charlerie, encore malade, mais souriante, et demeura immobile, la bouche ouverte. Évidemment, il voulait dire quelque chose, mais les paroles lui faisaient défaut pour émettre la joie qui était en lui. Sa femme le regardait, étonné. Lui remuait ses lèvres muettes, cherchant des mots. Et tout à coup, après un effort visible de réflexion, il éleva l'enfant vers la malade et s'écria du ton dont on appelle au feu « Incipe paue puer risu cognoscere matrem !» Sa mémoire d'écolier était venu en aide à son amour de père, et il avait trouvé cela enfin. Lui aussi, dit-il après cette expansion, oh, lui aussi apprendra le latin. C'est ainsi que tout ce brave cœur, longtemps inexprimé, s'épanouissait délicieusement en tendresse. Quand le moment fut venu, il sevra lui-même son fils. Il excellait à l'emmailloter. Il supportait les petites colères du bébé avec des patiences de nourrice. Madame Chattery disait en riant, « Mais tu aimes trop Fernand, je suis jalouse. » Et il répondait, « Mais lui, c'est toi. » Cependant, Fernand, qui grandissait, traversa un jour la chambre sur ses petits pieds incertains. Le père n'en crut pas ses yeux et disait à tout le monde, « Mon fils marche, c'est extraordinaire, il n'a pas encore 2 ans, cela ne s'est jamais vu. » Bientôt, le nouveau Charlery fut en mesure de se promener dans la rue comme un homme. Ce jour-là, qui était un jour d'avril, Siméon acheta pour l'enfant un petit habillement de zouave, l'en vêtit lui-même et il dit à sa femme, « Oh, je trouve qu'il a l'air d'un général. » Au-delà des villes, en des pays lointains, les forêts sont très belles, mais à Paris, les jardins sont charmants. Sans eux, nous ne saurions plus si la nature existe. En refleurissant, ils nous avertissent de revivre, et ils sont pleins de joie dès avril, car Paris met tout ce qu'il a d'enfant dans tout ce qu'il a de soleil. La lumière rit dans les branches encore sans feuilles, qui s'enchevêtrent sur le bleu du ciel comme d'immenses toiles d'araignée. Les passereaux piaulent en voletant. L'un d'eux veut se poser sur l'épaule d'une petite fille qui a peur. D'autres marchent familièrement sur les plates-bandes ou sur le sable qui paraîtrait blanc. Au premier jour du printemps, le soleil est si faible qu'il pâlit ce qu'il éclaire, comme la lune. Quelquefois, de la cime d'un marronnier, une colombe s'envole, effarée par le tapage des enfants joueurs, et bientôt se fond dans le ciel bleu comme lui. C'est une heure bénie. Les choses sont satisfaites. L'air est confiant. Il y a de l'espoir dans la clarté. L'enfance et le printemps font une double aurore. Dans cette joie des jardins renouvelés, on voyait passer fièrement Siméon Charlery, donnant le bras gauche à sa femme, qui riait blanche et rose, et la main droite à son fils habillé en zouave. Et dans les yeux sincères de ce brave homme, éclatait le double orgueil honnête d'être le mari de cette jolie femme et le père de ce bel enfant. Mais il rencontra Raymond Pichard un matin en allant au bureau. « C'est lui !» s'écria Pichard, le chapeau incliné et un gros joint à la main. « C'est lui-même ! Bonjour, Siméon ! Toujours gros, Charlery ! Tu t'es marié, je crois ! « Je parie que ta femme est très jolie, allez embrasse-moi donc, grand niais !» Et Raymond secoua son ami d'une telle accolade que des passants crurent qu'il se battait. « Cette fois, sauvage, tu m'échapperas pas !» continua Pichard. « Est-ce que tu as déjeuné ?»« Oui, eh bien, nous dînerons ensemble. Ce soir à 5 heures chez Bonvalet. Ne manque pas !» « Allez, prête-moi 50 francs, merci. Tu sais, je suis un ami, c'est toi qui payes. Ce brave Siméon, toujours le même, plus grand seulement. Allez, à ce soir, hein, j'y compte. » « Oui, dit Siméon, vaincu. Certainement, depuis plusieurs années, et depuis son mariage surtout, les idées de Siméon s'étaient éclaircies. Mûri de quelque expérience, il avait passablement changé d'opinion sur le compte de Raymond Pichard. Il s'avouait que son ancien camarade, avec sa grosse voix et ses gestes turbulents, devait paraître peu recommandable aux gens qui ne le connaissaient point. Madame Charlerie, d'ailleurs, avait coutume de dire « Oh, cheveux roux, gare au cou !» Mais en présence de Pichard, le bon Siméon était incapable d'éprouver autre chose qu'un grand étonnement mêlé d'admiration. Il redevenait l'enfant qu'il avait à peine cessé d'être. Pesant aux gestes rares, à la parole lente, il s'extasiait des bras levés, des cercles de canne, des crâneries de chapeaux étaient remis, et Don Raymond ponctuait les heures de ses phrases torrentielles. « Quel homme » pensait-il. « Il avait raison, il est très fort !» Tout le jour, cependant, Siméon fut morose. Il regardait souvent par la fenêtre le joli square récemment planté où Madame Charlerie venait chaque soir avec Fernand l'attendre à la sortie du bureau. Il songeait « Que dira ma femme quand elle saura que je dîne hors de la maison ?»« Oh, j'aurais dû refuser !»« Refuser à Pichard, c'était impossible !» Si j'avais pris, comme à mon ordinaire, par la rue de Bourgogne, je ne l'aurais pas rencontré. Mais pourquoi donc ai-je suivi la rue du Bac? Ah, parce qu'on creuse un égout, place du Palais Bourbon. Enfin, je ne pouvais pas dire non à Picard, qui est mon ami. Et comme Madame Charlerie, selon sa coutume, vint s'asseoir sur un des bancs du petit square et fit un signe d'ami à son mari, pendant que Fernand, d'une pelle de bois, creusait le sable d'une allée, Siméon ne sut lui répondre que d'un sourire assez penaud. Cependant, il dîna avec Raymond Picard. Madame Charlerie lui avait dit « C'est tout naturel, un ancien ami vous invite à dîner, il n'y a rien de plus simple. Et puis tu travailles beaucoup, il faut bien que tu t'amuses un peu, allez va, va mon ami !» Et Siméon avait répondu « Oh, mais tu es un ange !» Et il avait ajouté « Allez, donne-moi de l'argent, parce que je crois que c'est moi qui paierai le dîner. »« Vois-tu, mon cher, » dit Raymond Pichard, après boire les coudes sur la table, « le Bordeaux est bon, mais le Bourgogne est meilleur. Le vin, c'est comme les femmes, il y a le Mâcon et le Médoc, il y a les blondes et les brunes. » Le Mâcon, c'est les blondes, et les brunes, c'est le Médoc. Moi, je préfère les blondes. Et le Mâcon, c'est un goût. J'espère bien que ta femme est blonde. Ah non, dit Siméon, elle est brune. Tant pis. Tu as épousé une brune? Oh, c'est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, mais cela me contrarie. Moi qui, justement, voulais te demander de me présenté à Madame Charlerie, car tu me connais, je suis un bon camarade. Ce qui est à mes amis est à moi. Oui, oui, dit Siméon, je te connais. Oh, je ne puis pas t'en vouloir, je n'étais pas là, tu as agi à ta fantaisie. C'est égal, une brune, c'est bien contrariant. Et là-dessus, Raymond Pichard, ayant vidé dans son verre le fond d'une troisième bouteille de Bourgogne, sonna pour en demander une quatrième. « Oh, les femmes !» reprit-il. « Toi, tu as toujours été sage, tu les connais pas. Mais moi, je suis un chenapan, comme on dit. Pour ce qui est des femmes, personne ne peut m'en remontrer. Bien veux-tu que je te dise, la meilleure ne vaut pas la corde pour la pendre. Au commencement, elles sont douces comme des agneaux, des Agnès, des Saintes Nitouches. Mais faut pas s'y fier. Mais il y a des exceptions, dit Charlerie. Pas une. Mais s'il y avait au monde une seule exception, est-ce que je l'aurais pas rencontrée? C'est vrai, dit Siméon. Mais tu comprends bien que je ne veux pas t'enlever tes illusions. Les illusions, mon ami. Et en disant ces mots, Raymond Pichard poussa un profond soupir. « Les illusions, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Garde les tiennes. Tu feras bien, c'est utile en ménage. Mais enfin, il ne faut pas être trop jocrisse. Oh, je sais bien ce que tu vas me dire. Tu as rencontré ta femme dans sa famille, une famille bien honnête, bien dévote du Marais ou des Batignolles. Tu lui as fait la cour pendant longtemps, tu as appris à la connaître avant de l'épouser. Tu es bien sûr que jamais, lorsque tu es arrivé, elle avait encore levé les yeux sur aucun homme. Bien, bien, non, je connais la chanson. Vous êtes tous les mêmes, vous, les hommes mariés. Il n'y en a pas un d'entre vous qui ne soit prêt à jurer qu'il a trouvé la pionie. Va-t'en voir, Sylvienne. Tiens, veux-tu que je te dise? Les fleurs d'oranger, au fond, c'est des boutons de rose et joliment épanouis encore. Mais, objecta Siméon, il n'y a pas eu de fleurs d'oranger dans mon mariage, puisque j'ai épousé une veuve.
Une veuve? Eh bien, il manque plus que cela.
Si tu m'avais consulté, c'est moi qui t'aurais empêché de faire une pareille sottise. Mais voilà comment sont les amis. Ils font à leur tête, sans consulter ceux qui ont plus de raison et d'expérience qu'eux. Et quand le mal est fait, quand il n'y a plus de remède, ils viennent se plaindre pour si pleurnicher par là. Oh, mon pauvre Raymond, je suis bien malheureux, si tu savais, tu peux pas t'imaginer. Et grand Danet, il est trop tard, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse maintenant?
Mais sabristi, s'écria Charlerie, qui jurait pour la deuxième ou troisième fois de sa vie, je ne me plains pas le moins du monde. Ma femme est une créature de bon Dieu, je suis le plus heureux des hommes.
Heureux avec une veuve, avec une veuve qui est brune, allons donc. Après tout, c'est possible. Tu es un homme simple, toi, un esprit grossier. Tu réfléchis pas, tu prends les choses comme elles font semblant d'être, sans demander le comment ni le pourquoi. On te dit c'est blanc et tu réponds c'est blanc. Bah, c'est autre chose, j'y vois clair. Puis j'ai des sentiments qu'un rien ne peut froisser. Mon malheur, c'est la délicatesse. Je ne suis pas un homme, je suis une sensitive. Si j'avais épousé une veuve, je passerais ma vie sur des charbons ardents. Tu n'as jamais pensé à cela, toi, qu'une veuve qui a convolé en seconde noce peut quelquefois se souvenir de son premier mari? Oh, à ta place, je serais dévoré de jalousie. Ne pas pouvoir être regardé amoureusement par la femme qu'on aime sans se dire « Elle a regardé l'autre avec ses mêmes yeux. » Songez, quand elle vous appelle « mon chéri », qu'il y a eu un homme autrefois qu'elle appelait ainsi. Tiens, tiens, rien que d'y penser, j'ai le frisson. Il est vrai que tout le monde n'est pas taillé sur mon patron. Je te l'ai dit, j'ai un malheur, la délicatesse. Il y a des gens, oh, tu vas donner un exemple, qui ont épousé des veuves et qui vivent tranquilles. Des niais, mais ils sont heureux, surtout quand ils n'ont pas d'enfants. Heureux quand ils n'ont pas d'enfants, mais qu'est-ce que tu me dis là, Pichard? C'est depuis que mon petit Fernand est né que la vie est pour moi un véritable paradis. Il a 4 ans. C'est un petit ange, spirituel comme un diable. Je l'habille en zouave le dimanche lorsque nous allons aux Tuileries. Tu peux pas imaginer comme il est joli dans ce costume-là. Un enfant, dirait mon Pichard. Il a un enfant. Après ces paroles, il se leva. Avec lenteur, car le Bourgogne avait quelque peu alourdi ses jambes. Il fit le tour de la table, s'approcha de Siméon, qui le suivait d'un regard étonné, lui prit amicalement la tête entre ses mains, et en le balançant de droite à gauche, puis de gauche à droite, d'un air paterne et miséricordieux, il reprit avec attendrissement « Un enfant, il a un enfant, pauvre ami !»« Ah, ça, mais qu'est-ce qui te prend ?
s'écria Charlerie en dégageant sa tête. « Oui, j'ai un enfant, mais j'espère en avoir un autre et un autre encore. Quel malheur y a-t-il là-dedans et pourquoi me regardes-tu avec cet air de désespéré ?» Raymond Pichard regagna sa place et s'assit lourdement en répétant tout bas « Pauvre ami, pauvre Siméon !» « Mais tu m'ennuies à la fin, que veux-tu dire avec ton pauvre ami ?»« Oh, rien du tout. »« Non, voyons, tu dois avoir une idée. Je te connais, tu as toujours des idées. »« Oh, c'est vrai, » dit Pichard. « Eh bien, explique-toi. »« Non, c'est inutile. Qu'est-ce que je veux, moi, ton bonheur ?»« Tu es heureux, je suis content. » Parlons d'autre chose, cela vaudra mieux. J'en ai déjà trop dit, je te demande pardon. Tu sais, quelquefois on se laisse aller à penser tout haut, et puis on a du regret, parce que, sans y prendre garde, on a fait de la peine à un ami. Je te le répète, parlons d'autre chose. D'ailleurs, ce n'est pas vrai, peut-être. Je l'ai entendu dire, voilà tout. Il est prudent de le croire que ses propres yeux, et encore, malgré cette précaution, on se trompe bien souvent. Je suis un saint Thomas, moi. Quant à ce que je pensais, je ne sais même plus qui me l'a raconté. Tu vois que c'est pas bien sérieux. Ah si, je me rappelle, c'est un chasseur qui m'a expliqué la chose. Ne te fie pas aux chasseurs. Ils ont toujours tué une demi-douzaine de lièvres avant d'avoir fait quatre pas dans la plaine. Ajoute que le chasseur en question est né en Gascogne. Et les Gascons, je te conseille de ne jamais t'inquiéter de leur humblerie. Il avait une chienne, celui-là, une magnifique bête, ma foi, une épagneule toute noire. Tu juges s'il veillait sur elle. Mais bah, elle avait une intrigue avec le chien d'un métayer à un affreux roquet à poils ras. Si mon chasseur tordit le cou au petit, je n'ai pas besoin de te le dire, et de surveiller son épagneul et de lui donner un compagnon de la race la plus pure. Ah, bien oui, il perdit sa peine. Bien que la mère n'eût jamais revu son premier amoureux, tous les nouveaux petits ressemblèrent à s'y méprendre à l'affreux roquet du métayer. Mon chasseur était furieux, mais les paysans lui affirmaient que le fait était tout naturel et que la chose se passait toujours ainsi. Tu vois que c'est un conte à dormir debout, et puis qu'est-ce que cela prouverait? Quel rapport y a-t-il entre une épagneule et une femme? Voilà une bonne folie de s'imaginer, lorsqu'on épousait une veuve, que les enfants qu'on a ressemblent à son premier mari. Oh, je te reconnais bien là. Tu cherches, tu fouilles, tu travailles, tu questionnes, et quand on te répond par bonté d'âme, qu'est-ce qui est attrapé? C'est toi. Siméon Charlerie s'était levé, très pâle, et montrant le poing à son ami. Tu es un mauvais cœur, Raymond Pichard, cria-t-il en balbutiant. Je ne t'ai rien demandé, je n'ai rien voulu savoir. Et voilà une heure que tu essayes de me mettre dans l'esprit de mauvaises pensées et de me torturer. Oh, je te connais maintenant. Non, tu ne m'as jamais aimé. Je suis heureux, cela te fait de la peine. Tu es envieux, mais je ne te crois pas. Et je ne veux plus te voir méchant. Méchant, méchant homme. Et Charlerie, brusquement, prit sa canne et son chapeau, ouvrit la porte et s'enfuit comme quelqu'un qui a peur. L'autre le suivit en se retenant au mur et cria dans l'escalier « N'oublie pas de payer l'addition en passant, puisque tu m'as invité !» Siméon rentra dans son bonheur et dans son repos. L'été vint. Ce fut le moment de renouveler les escapades adorables à Meudon et à Ville-d'Avray. Maintenant, ils étaient trois. C'est charmant d'être mari. Être mari et père, c'est divin. Il y a des liqueurs quintessentiées dont une seule goutte suffit à développer extraordinairement les saveurs latentes d'un breuvage. Un enfant qui s'ajoute à un couple produit un effet analogue. Ils étaient moins fous, moins rieurs, mais ils étaient plus heureux. Leur joie, plus intense, était plus paisible, comme une eau plus profonde et plus calme. Ils parlaient moins pour entendre bégayer l'enfant. Ce silence attentif des parents se retrouve en partie dans la nature. Les femelles des oiseaux qui couvent les nids bavards ne chantent pas. Ils écoutaient, gazouillaient leur vie recommencée dans cette enfance. Siméon grimpa aux arbres afin d'amuser Fernand, encore trop petit pour le suivre. Il se faisait le joujou de son fils. Si l'enfant avait voulu ouvrir sa grande poupée pour voir ce qu'il y avait dedans, il se serait laissé faire. Une fois, on raconta devant lui l'histoire du pélican qui se déchire les entrailles pour nourrir ses petits. Il n'admira pas. Mourir pour ses enfants lui paraissait aussi naturel que de vivre pour eux. Au retour des promenades à travers champs, c'était lui qui portait dans ses bras le petit homme endormi. Il se plaignait des chaos de la voiture parce qu'il secouait Fernand et lui laissait ouvrir ses jolis yeux après que le marchand de sable l'était passé. Rentré, il le couchait, bordait le lit, lui faisait répéter une prière, le baisait au front, sur les yeux, sur la bouche, et ne pouvait point quitter ce coin du paradis où son ange reposait. Puis il venait, timidement, oh, il n'avait jamais cessé d'être timide, dans la chambre où Madame Charlery l'attendait en se déshabillant. Il lui prenait les mains, il la regardait avec un air de profonde reconnaissance. Tout son bonheur, c'était d'elle qu'il le tenait. Il craignait toujours qu'elle ne sût pas assez combien il avait pour elle d'amour et de gratitude. Quelque temps après la naissance de Fernand, il avait imaginé, lui, si naïf, si simple, si niais même, il avait imaginé une chose exquise. Il n'appelait plus sa femme Clémence, il l'appelait Fernande. Une nuit, c'était vers le commencement de l'hiver, Siméon s'éveilla brusquement. Ces sursauts qui agitent quelquefois les personnes nerveuses étaient tout à fait inconnus aux lymphatiques chaleureux. Il a, depuis qu'il avait cru recevoir deux petits coups sur la tempe, comme si quelqu'un avait frappé à la porte de son esprit, il se dressa sur son séant et regarda dans l'ombre. L'obscurité étant parfaite, il ne pouvait rien voir. Il distingua quelque chose pourtant. Devant lui, à très peu de distance, presque entre ses deux yeux, dans une sorte de cadre grand comme celui d'un portrait carte, une petite cascade ébouriffée s'enchevêtrait péniblement parmi des broussailles. Il y avait très longtemps qu'il n'avait eu cette vision. « Oh !» se dit-il, « est-ce que je suis malade ?» Il replaça sa tête sur l'oreiller. La toile lui sembla brûlante. Il tourna plusieurs fois dans le lit, espérant trouver à droite le sommeil qu'il n'avait pas trouvé à gauche. Il se sentait aucune douleur précise. Un serrement de cœur lent, progressif, continu, une grande chaleur au front, c'était tout. Oh, il ne pensait pas à son fils, cependant, il s'entendit répéter deux ou trois fois, sans raison, « Fernand, Fernand !» Madame Charlery, avec un peu d'humeur, lui dit, « Mais tiens donc, tranquille, tu m'empêches de dormir. » Il fit alors des efforts inouïs pour demeurer immobile. Il tendait solidement les bras et les jambes et pensait, Je ne bougerai point. Mais vainement, il tournait encore. Mais qu'était-ce donc qu'il avait? Il ne songeait à rien, et il était comme s'il eût été en proie à un souci dévorant. Sans avoir aucun sujet de chagrin, il était envahi par un désespoir intense. Chose explicable dans cette nature où les idées se formulaient obscurément, lentement, il éprouvait l'effet avant d'en avoir démêlé la cause. Une fois, il s'écria « Mais il est parti pour l'Amérique !» Et il ajouta « Mais qui donc est parti ?» Il ne se rendait pas compte qu'il pensait à Raymond Pichard qui était allé, en effet, chercher fortune à Philadelphie. Tout ceci, d'ailleurs, avait lieu dans le vague d'un demi-sommeil fiévreux. Le matin, il était très fatigué. « Ne va pas au bureau !» lui dit Madame Charlerie. Il répondit « Oui, il vaut mieux que je n'y aille pas, tu as raison. » Il s'assit dans un fauteuil et demeura sans mouvement. Ses idées étaient un peu moins troubles qu'elles ne l'avaient été pendant la nuit. Il comprenait qu'une mauvaise pensée lui était venue en songe et l'avait éveillé. Mais il ne se rappelait son rêve que très confusément. Sûrement, il s'agissait de Raymond Pichard et de Fernand. Mais que pouvait avoir de commun Fernand et Raymond Pichard? Au déjeuner, il mangea peu et ne parla point d'abord, mais tout à coup, Madame Charlerie, ayant par hasard, en racontant une histoire de sa jeunesse, prononcé le nom de Monsieur Fauvel, son premier mari, le beau et gros visage de Siméon s'épanouit en une large grimace de joie. « Oh, oh !» s'écria le brave homme en se renversant sur le dossier de son fauteuil. « Je comprends, mais je comprends !» Et il poussa un éclat de rire, si joyeux, si bruyant, si sincère, que Madame Charlerie et Fernand ne purent s'empêcher de faire comme lui. « Je me rappelle maintenant, » continua Siméon, en s'interrompant à chaque parole pour rire à gorge déployée. « J'ai rêvé de ce que m'a dit Raymond Pichard. Faut-il que je sois bête pour m'être souvenu des paroles de ce gredin la nuit en dormant ?»« C'est égal, je suis bien heureux de savoir à quoi m'en tenir. Je me croyais malade. » Mais ce bon monsieur Fauvel, je l'aimais de tout mon cœur. C'est que, véritablement, Picard, avec ses bêtises, aurait pu me faire beaucoup de mal si j'étais un esprit faible. Et Dieu merci, j'ai du bon sens. Allez, viens m'embrasser, mon fils. Embrasse-moi, Fernande. Et puisque je ne vais pas au bureau, nous allons prendre une voiture et nous irons nous promener au bois de Boulogne. Cette journée fut une des plus heureuses de Siméon Charlerie. Il riait à tout propos. Au milieu des Champs-Élysées, il sauta au cou de sa femme et la baisa sur les deux joues devant le monde. Quelquefois, il se surprenait à regarder son fils trop longtemps, trop fixement. « Oh, ça !» disait-il alors. « Mais est-ce que je perds la tête, moi? Quel gredin que ce Pichard !» Et il riait à se tordre. « Mais enfin, qu'est-ce que tu as donc ?» lui demandait Madame Charlerie. Il répondait « Oh, j'ai ma femme et mon fils !» Et il était très content. Ce fut son dernier jour de bonheur complet. La mauvaise pensée était en lui. D'abord, elle ne lui revint qu'à d'assez longs intervalles. Le mal n'était alors qu'intermittent. Mais ses retours, quoique peu fréquents, répandaient de la tristesse sur les moments même où il ne songeait pas à cela. Il parlait moins, jouait plus rarement avec Fernand, et quelquefois, le soir, avant de s'endormir, il oubliait d'embrasser Madame Charlerie. « Comme tu es devenu sérieux !» lui disait sa femme.
Oh, c'est que je prends de l'âge, répondait-il. Il n'avait que 40 ans. Lui-même, à vrai dire, il ne s'imaginait pas qu'une idée pût avoir tant d'influence sur un homme. Et il était sincère en disant qu'il était devenu sombre parce qu'il était devenu vieux. Quand ce qu'il appelait une marotte lui venait à l'esprit, il était ennuyé, non effrayé. Il murmurait « Oh, n'y pensons plus !» Et il croyait qu'il n'y penserait plus. Jusqu'à présent, d'ailleurs, l'idée ne s'était pas faite sienne. Elle tenait encore à Raymond Pichard, et l'aversion que lui inspirait maintenant son ancien camarade l'aidait à résister plus vivement à l'obsession dont Pichard avait été la cause première. Il se répétait souvent « Bon, le menteur a pu dire qu'un mensonge. Il a voulu me faire de la peine, mais je ne suis pas assez idiot pour lui donner le plaisir de m'avoir rendu malheureux. Ce qu'il m'a conté n'a pas le sens commun. Il était impossible que Fernand ressemble à M. Fauvel. Je consulterai un médecin. Les médecins en savent plus long que les chasseurs, je suppose. Et puis, où serait le mal ? Quand même Fernand ressemblerait à M. Fauvel, il n'y aurait pas là de quoi se pendre. Est-ce que cela empêcherait ma femme d'être ma femme et mon fils d'être mon fils ? C'était un très brave homme que le premier mari de ma femme. Et puis il ne lui ressemble pas le moins du monde. Je le sais bien, peut-être, puisque c'est à Clémence qu'il ressemble. Il ne disait plus Fernande. D'ailleurs, il n'avait pas cessé d'être amical pour sa femme, tendre pour son fils. En apparence, c'était le même homme, plus grave seulement. Madame Charlerie ne remarquait pas les regards qui jetaient quelquefois à la dérobée sur Fernand. Un dimanche où il n'était pas sorti, Madame Charlerie entra dans le salon pour lui dire qu'elle allait rendre visite à une amie. Et elle le surprit qui refermait vivement une armoire. « Mais que cherches-tu donc ? » lui demanda-t-elle. « Oh, il y a un livre, » dit-il. Il rougit parce qu'il mentait. Mais elle ne s'aperçut pas de son embarras, et prête à sortir, elle lui offrit son front à baiser. « Tu n'amènes pas Fernand ? » ?»« Non, tant mieux. Pourquoi ?» parce que nous jouerons ensemble. » Elle sourit et s'en alla. Ce n'était pas un livre que Siméon cherchait. Il se souvenait qu'il avait vu autrefois, où il ne savait tout, un portrait de M. Fauvel. Il voulait le revoir. Oh, il se rappelait très bien les traits de son ancien sous-chef. Il était convaincu qu'il n'y avait entre eux et ceux de Fernand aucun point de ressemblance. Pourtant, il n'aurait pas été fâché de s'en assurer mieux encore. Ainsi, il en était à avoir besoin de preuves. Mais ce portrait, où pouvait-il être ? Il fureta dans tous les coins sans succès. Il demanda à la domestique... « Madeleine, est-ce que vous n'avez pas vu un tableau avec un cadre noir ?» Il n'osait pas dire un portrait. « Et qu'est-ce qu'il représente, votre tableau ?»« Un vieux monsieur qui est décoré. » Il n'osa pas nommer M. Fauvel, que Madeleine avait connu cependant. « Non, je ne l'ai pas vu, » dit Madeleine. Elle retourna à ses fourneaux. « C'est le portrait de Papa Fauvel que tu cherches ?» demanda Fernand, qui jouait sur le tapis dans un coin du salon. « Waouh, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que le pape Fauvel ?» cria Siméon en bondissant vers son fils. « Mais Papa Fauvel, tu sais bien, c'est le mari de maman. » Siméon se laissa tomber sur un fauteuil. Il avait tout le visage en sueur. Il se rappelait que c'était lui-même qui, naguère, avait coutume de dire « Papa Fauvel ». et que l'enfant ne faisait que répéter ce qu'il avait entendu dire. Malgré cela, ces quelques mots lui bouleversèrent le cœur, et il s'écria « Oh, il faut absolument que je trouve ce portrait !»« Il est dans ma chambre, sur la plage au-dessus de mon lit, » dit l'enfant. « Il doit joliment s'ennuyer, tourner du côté du mur. » Quelques secondes après, Simon Charlery, assis sur le tapis devant la fenêtre, tenait son fils d'une main et de l'autre le portrait de M. Fauvel. « Mais aucun rapport, aucun. Est-ce que mon Fernand a le nez rond comme une pomme de terre? Pas du tout. Eh bien, mon fils, que je t'embrasse ton nez. Fernand est blond, d'ailleurs. Gredinerie, pichard. Et cette bouche, mais pas la moindre ressemblance. Rien, rien. » Le regard de Siméon ne cessait d'aller du visage jaune du portrait à la face rose de Fernand. « Oh, dans la forme des yeux, peut-être, il y a quelque chose. La couleur, par exemple, est tout à fait différente. Mon fils a les yeux bleus, comme Clémence, et les yeux du portrait sont... Ah, jamais on dirait que les yeux du portrait sont bleus, maintenant. » Non, c'est le jour qui me trompe. Je me souviens que M. Fauvel avait les yeux gris. Donc, quand mon front, je ne sais que penser. Les bosses au-dessus des sourcils, est-ce que Fernand les a? Ah oui, il les a. C'est singulier, tout à l'heure, je ne trouvais aucune ressemblance. Et puis, en observant mieux... Le pauvre homme, à force de regarder, en était arrivé à ne plus voir. « Mais je suis fou » cria-t-il en se prenant la tête à deux mains. Puis, attirant son fils sur sa poitrine, il sanglota longtemps dans les cheveux de l'enfant étonné. 3 mois s'écoulèrent. Simon maigrissait. Oh, il n'avait plus ce visage gras et doux où aucune inquiétude n'avait jamais tracé de rides. Depuis quelque temps, il parlait peu. Il en vint à ne plus parler du tout. Madame Charlery remarqua enfin la façon étrange, presque mauvaise, dont il regardait Fernand quelquefois. Il dormait mal. Je vis établir un lit dans le salon. Une nuit, Madame Charlery, à travers la cloison, l'entendit pleurer et crier à plusieurs reprises. « Frappant, mais c'est frappant !» Elle se leva et accourut. Siméon, debout, en chemise, marchait à grands pas. Dès qu'il la vit, il se précipita vers un coin du salon et se tint, comme pour le cacher devant un objet carré qui était appuyé au mur. « Va-t'en, va-t'en » cria-t-il. « Mais va-t'en donc, Madame Fauvel !» La pauvre femme eut peur. C'était la première fois qu'il lui parlait avec dureté. « Mais pourquoi m'appelles-tu Madame Fauvel ?» dit-elle en pleurant. Il courut à elle et la prit dans ses bras. « Non, mais je suis un méchant, Clémence, ma Fernande, pardonne-moi. » Elle le crut guéri, mais le lendemain, de tout le jour, il ne prononça pas une parole. L'idée fixe dans cet opaque et paisible esprit, c'était comme sur l'eau d'une mare, une grosse araignée qui se débat, patauge et s'enfonce. D'autres malheurs survinrent. Un jour, Madame Charlery décacheta, sans prendre garde à la suscription, une lettre adressée à son mari. Cette lettre venait du ministère. Siméon y était informé que, par suite de ses absences d'abord trop fréquentes et maintenant continuelles, on avait été obligé de pourvoir à son remplacement. Que Madame Charlery, stupéfaite, achevait sa lecture, elle entendit dans l'escalier le pas de son mari et, s'élançant vers la porte qu'elle ouvrit brusquement, « Est-ce que c'est vrai? dit-elle en lui montrant le papier. Siméon devint affreusement pâle. Il n'osa dire ni oui ni non, se prit à trembler de tous ses membres, puis redescendit, sortit en courant, et ne rentra que lorsqu'il supposa sa femme couchée et endormie. Depuis longtemps, en effet, Siméon n'allait presque jamais à son bureau. Assis devant sa table, immobile, il ne pouvait résister à l'envahissement toujours plus intime de la mauvaise pensée. En marchant, il réfléchissait moins, et par conséquent, souffrait moins. Après sa destitution, il resta peu à la maison parce qu'il craignait les reproches de sa femme. Des courses sans but d'un bout à l'autre de la ville occupèrent toutes les heures de sa journée. Il marchait droit devant lui, heurtant les passants, n'évitant les voitures que par instinct. Ses lèvres remuaient et il se parlait tout bas. Mais c'est pas mon fils, j'ai pas de fils, c'est le fils de l'autre. Une fois, un coup de vent lui emporta son chapeau. Il ne s'aperçut même pas qu'il avait la tête nue. Je n'aurais jamais cru que cela fût possible, mais c'est vrai. Les savants doivent pouvoir expliquer cela. Hier surtout, il lui ressemblait affreusement, mais quand il est venu m'embrasser, j'ai eu peur. Le sentiment qui était en lui demeurait obscur. Il ne démêlait pas bien pourquoi cette ressemblance se faisait souffrir, mais il souffrait. Quand il rentrait le soir, il marchait à pas de loup, espérant qu'on ne l'entendrait pas, et il essayait de se glisser sans être vu dans le salon où était son lit. Mais Madame Charlerie le guettait. « Voyons, Siméon, parle-moi, tu es malade, qu'as-tu ?» Il répondait, « Oui, oui, j'ai la migraine, mais cela se passera. » Et il se mettait à marcher à grands pas dans l'appartement. Sa femme insistait, « Mais ne veux-tu pas voir Fernand avant de te coucher ?» Il marchait plus vite et disait, « Mais je le vois toujours. » Ou bien il s'arrêtait et fondait en larmes. Quand il pleurait, il se trouvait moins malheureux. L'argent en manqua bientôt. Il ne possédait rien. Ils avaient vécu des appointements de Siméon. Et la place perdue, il restait sans ressources. Madame Charlerie hasarda quelques remontrances. « Tu devrais, dit-elle, aller voir le ministre. » Il lui répondit, « Oh, si M. Fauvel vivait encore, il me recommanderait. » La pauvre femme, bien qu'elle fût très loin de soupçonner la nature du mal qui rongeait Siméon, sentit qu'il y avait dans cette réponse quelque chose qui rendait toute réplique inutile. Elle se tut et se résigna. D'ailleurs, elle éprouvait devant son mari cette sorte d'étonnement qu'inspirent les fous et qui est plus voisin qu'on ne pense de l'admiration. Elle était impressionnée par l'étrangeté de Siméon, bien plus qu'elle ne l'avait été par sa candeur et par sa bonhomie. Elle devenait silencieuse. Aussi, entre le père qui ne parlait pas et la mère qui parlait peu, l'enfant se fit taciturne. Ce ménage, si joyeux naguère, était lugubre. Ces trois personnes allaient, venaient, sortaient, rentraient, sans s'adresser une parole ou un regard. Fernand, d'ordinaire, se blottissait sous une table et ne bougeait point, surtout quand Charlerie était là. Il comprenait instinctivement qu'en présence de son père, il devait exister le moins possible. Il avait fallu renvoyer Marianne parce qu'on ne pouvait plus la payer. Il y avait un bureau auxiliaire du Mont-de-Piété dans la rue qu'ils habitaient. Les voisins virent entrer Madame Charlery dans le long couloir où, naguère en passant, elle n'osait pas jeter les yeux. Les armoires, en peu de temps, furent vides. Et un jour, Madame Charlery emporta sous son châle un objet assez volumineux qui faisait bosse. C'était la pendule en bronze doré où deux pigeons se becquetaient les ailes entr'ouvertes. Siméon ne remarqua même pas la disparition de cette chose jadis aimée et qui longtemps lui avait semblé le symbole de son bonheur. Il assistait avec indifférence à la ruine de tout ce qui avait été son orgueil et sa joie. Il ne voyait pas que l'appartement se démeublait peu à peu, que Madame Charlery portait une vilaine robe sombre de molleton à carreaux, elle jadis si coquette et si pimpante, et que Fernand, qui ne l'habillait plus en zouave, avait des culottes déchirées aux genoux, qu'on ne reprisait pas, lui-même qui prenait autrefois grand soin de sa personne. Il était pauvrement vêtu. Il avait un habit d'été usé et sale pour courir sous la pluie d'hiver. Il y avait 4 mois qu'il ne s'était pas rasé. Et cette barbe qu'il laissait pousser pour la première fois et qui était grisonnante et dure, ses cheveux en désordre, ses yeux jadis si placides, où s'allumait maintenant un regard fixe et farouche, ses joues creusées à la peau jaunie par la bile, lui donnaient un air qui souvent effrayait Madame Charlery. D'ailleurs, il devenait brusque. Un jour, sans raison, après l'avoir longuement regardé, il prit Fernand par l'épaule et, de l'autre main, lui donna un soufflet. Dans la maladie morale de Siméon, la crise approchait. Une chose qui étonna beaucoup Madame Charlery, c'est qu'un jour, en cherchant dans une armoire une paire de draps qu'elle voulait vendre, elle trouva le portrait de Monsieur Fauvel déchiré, déchiqueté en pièces. Elle crut même voir des traces de dents dans les lambeaux de toile qui pendaient çà et là. D'abord, elle prouva quelques inquiétudes à ce sujet. Puis, indifférente aussi, elle se dit « Bon, ce sont les rats. » Un matin, ils reçurent une lettre, on les invitait à dîner. « Nous n'irons pas, » dit Madame Charlery. Siméon ne sortit point ce jour-là. Il resta assis au coin de la cheminée sans feu. Il paraissait méditer profondément. Comme le soir venait, « Eh bien, partons, dit-il, et il ajouta, « Ce sont d'anciens amis, je rencontrerai chez eux quelqu'un qui m'a promis une place. » Ces paroles décidèrent Madame Charlery. Elle crut un instant que son mari avait honte de son oisiveté. Elle essaya de composer une toilette avec de vieux chiffons dont le Mont-de-Piété n'avait pas voulu. Mais quand il fit mine d'habiller Fernand, Siméon lui dit « Non, non, les gens chez qui nous allons n'aiment pas les enfants. »« Il y a donc des gens, dit-elle, qui n'aiment pas les enfants ?»« Oui, qui ont des raisons pour ça. » Fernand se laissa coucher sans rébellion. La tristesse au milieu de laquelle il végétait avait tellement abattu sa vitalité il n'avait pas même songé à se faire une fête d'aller dîner en ville. À table, Charlery fut singulièrement gai. Il mangeait, buvait, souriait à sa voisine, et même fit un calembour. Au dessert, il proposa de chanter une chanson. Madame Charlery ne savait que penser. « L'affaire marche donc très bien ?» lui demanda-t-elle quand on quitta la table. « Oh, très bien, oui, admirablement bien. Il s'approcha de la maîtresse de la maison, lui annonça qu'il était obligé de s'absenter quelques instants, mais qu'il ne manquerait pas de revenir avant 10 heures, et qu'il la priait de l'excuser. Sa femme le regardait tout étonnée. Il la baisa au front et lui dit « Attends-moi !» Et il sortit en sifflant un air de danse. Dans la rue, il marcha en se dandinant comme un bon vivant qui sort de table. « Ils ont du fameux vin dans cette maison !» se disait-il. Il avait le chapeau sur l'oreille et faisait le moulinet avec sa canne. Il y avait quelques rapports entre ses allures et celles de Raymond Pichard, son ancien camarade. Il arriva sur les boulevards et se mêla aux promeneurs en souriant. Une femme passant près de lui, il s'arrêta pour la regarder et pensa « Il faut se donner du bon temps !» Oh, il était véritablement de la meilleure humeur du monde. Il paraissait décidé à se divertir. Il entra dans un café et comme le garçon lui demandait « Que vaut-il servir, monsieur ?» Il répondit « Oh, donnez-moi ce que vous avez de plus fort !» Le garçon fut surpris. Charlery éclata de rire. « Bon, pensa le garçon, en voilà un qui n'engendre pas la mélancolie. » On lui servit un verre de rhum. Bon, « ce qu'il y a de mieux à faire, se dit-il, c'est de prendre un parti. Quand on passerait sa vie à se désespérer, ça ne servirait à rien. Il faut en finir avec les choses qui vous ennuient. Depuis que je suis décidé, je me sens gai comme un pinson. » Broyer du noir, c'est absurde. Ce n'est pas Raymond Pichard qui se serait fait de la bile comme je m'en suis fait. Raymond Pichard, mais voilà un homme fort. Quand il eut avalé le verre de rhum, il songea qu'il n'avait point d'argent de quoi payer. Oh, ce n'était point qu'il eût oublié ou perdu sa bourse. Il n'y avait pas d'argent à la maison depuis 24 heures. Oh, oh, ce sera très amusant. Je vais me disputer avec le garçon. On ira chercher la police. Et la police me conduira au poste. Mais c'est très drôle, le poste. » Et il se prit à rire, d'un rire si bruyant qu'une fille rousse, qui était assise à son côté, lui dit, pour entrer en conversation, « Vous êtes bien gai, monsieur. » Il ne répondit pas. Il avait une idée. Il profita d'un moment où le garçon qui l'avait servi était occupé dans une autre salle, ouvrit la porte et se mit à courir en riant comme un fou. La bonne farce! Oh, je parie que Raymond Pichard serait content de moi. C'est le garçon qui va être attrapé quand il s'apercevra que je ne suis plus là. Ce que j'ai bu, cela l'a coûté au moins 10 sous. C'était très bon. J'ai volé 10 sous, mais c'est très drôle. Et quand il fut un peu plus loin, il cessa de courir. Bon, maintenant, reprit-il, il faut songer aux affaires sérieuses. Je m'amuse. C'est un à-compte que je prends, mais je serai bien plus content tout à l'heure. Il s'orienta et suivit la rue de Richelieu. Il parlait tout haut en marchant. « Oh, je suis bien résolu à me rendre heureux. Jusqu'à présent, j'étais un imbécile, mais Richard avait raison. La vie de ménage, d'abord, c'est ennuyeux. Je gagnerai de l'argent, j'irai au théâtre, j'aurai une maîtresse. Mais ça doit être très gai de souper dans les restaurants, mais je souperai. Oh, il faudra que je tâche de retrouver Pichard quand il revient en Amérique. Nous ferons nos fredaines ensemble. Il faut bien que jeunesse se passe. » Il était arrivé devant sa maison. Il entra. La porte de la loge était ouverte. Il vit sa concierge qui mangeait des marrons et buvait du vin blanc en compagnie de quelques voisines. « Bonsoir, madame, dit-il. Ah, oh, vous donnez une soirée, à ce que je vois. Fort bien, il n'y a pas de mal à prendre du plaisir. Les gens renfrognés sont des imbéciles. Voilà de très beaux marrons, savez-vous. Mais à votre service, monsieur Charlery. Oh, je dis pas non, ils ont une odeur qui tente. Mais vous accepteriez bien un verre de vin aussi? Pourquoi pas? Peste, ajouta-t-il après avoir vidé le verre qu'on lui offrait. Il est bon, votre vin. Puis il se retira et monta ses quatre étages en chantonnant « Gay, gay, la farine d'ondée !» Il ouvrit sa porte, la referma et alluma une petite lampe placée sur une table dans l'antichambre. « Ah, mais il y a longtemps, dit-il, que je n'ai pas été si joyeux en revenant à la maison. » Il avait l'air d'être content, en effet, très content. Ses yeux brillaient doucement. Il faisait mille gestes inutiles, comme les enfants qui s'amusent. Pour un peu, il sautait à cloche-pied. Pour gagner le salon où il couchait, il fallait traverser la salle à manger. Il s'y arrêta un instant, chercha quelque chose dans le buffet, du vin peut-être, et se remit en marche. Il chantait « Tant qu'on le pourra, la rirait, tant qu'on le sadra, la rira. » Dans sa joie, il essayait de se rappeler toutes les chansons qu'il avait entendues. Mais il n'alla pas jusqu'au salon. La lampe à la main, il ouvrit la porte de la chambrette où était couché son fils. C'était une sorte de grand cabinet avec une seule fenêtre donnant sur la cour. Il entra et s'approcha du lit à peine plus grand qu'un berceau. L'enfant dormait, et ses cheveux blonds et longs couraient çà et là sur l'oreiller. « Comme c'est joli un enfant qui dort! Oh, j'ai toujours adoré les enfants! Il y a bien longtemps que je n'ai pas dormi, moi, mais je dormirai tout à l'heure. » Voyons, il ne faut pas perdre de temps, car il me semble que je sommeille déjà. » Il se rapprocha encore et, tenant toujours sa lampe d'une main, il écarta de l'autre la couverture de Fernand. La petite poitrine, grêle et pâle de l'enfant, apparut toute nue. « Comme il a la peau blanche, dit-il. » Et il se pencha, sans doute pour embrasser son fils. Il avait tiré de sa poche quelque chose qu'il tenait à la main. C'était un couteau de table. « Tu comprends bien, petit Fauvel, dit-il d'une voix très basse. Je suis désolé d'en venir en cette extrémité, mais enfin, je ne puis pas m'en tirer autrement. J'ai été malheureux assez longtemps. C'est pas agréable, vois-tu, d'avoir fait un enfant qui se trouve être l'enfant d'un autre. Et justement de cet autre qui, avant vous... Oh, mais tu es trop petit pour comprendre cela. D'ailleurs, je te l'explique fort mal. Oh, si Ribon Pichard était là, il te l'expliquerait, lui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut que cela finisse. Je veux dormir et me donner du bon temps. Et tant que tu es là, c'est impossible. Aussi, je vais te tuer. J'en suis bien. » Et Siméon, l'œil brillant, avec un rire malicieux, abaissait lentement son couteau vers la poitrine pâle de l'enfant. « Charlery, Charlery, es-tu rentré? Oh, où es-tu donc ?» Lasse d'attendre son mari, Madame Charlery était revenue seule. Agitée de je ne sais quelle inquiétude, elle traversa rapidement la salle à manger et entra dans la chambre de Fernand. Siméon, au bruit, s'était retourné. Devenu tout à coup d'une pâleur mortelle, les yeux hors de la tête, la bouche béante, il regardait sa femme stupidement.
Mais que fais-tu là ?
Dit-elle, prise d'une horrible épouvante. Alors il eut peur. Il se mit à pousser des cris d'effroi et, comme une bête prise au gîte, il courait en tous sens dans la chambre cherchant une issue. L'enfant s'éveilla. Et l'enfant réveillé mit le comble à la terreur de Charlerie. « Fauvel ! Fauvel ! » cria-t-il. Il sauta vers la fenêtre, l'ouvrit brusquement et d'un bond s'élança dans le vide, la lampe à la main. Quelques instants plus tard, quand les voisins, accourus au cri de Madame Charlerie, allèrent le ramasser sur le pavé de la cour, il était mort. Heureusement, Cathilde Mendès.